Depuis lors, l'histoire du Saint-Suaire est très connue. Il a été précieusement conservé par la maison de Savoie, qui l'a considéré comme une sorte de palladium. Il voyageait avec les souverains et a été transféré en 1578 au château de Lucento, en Piémont, puis en 1694 à la chapelle du Dôme du Palais Royal de Turin. Il y est encore. Rabelais a parlé du Saint-Suaire de Chambéry et il dit que, pendant cet incendie de 1532, il fut entièrement consumé. M. Franck Puot l'a fait remarquer dans une lettre adressée au Matin. Mais Rabelais n'est pas, en pareil cas, une autorité bien sûre, et il est des témoignages probants sur l'identité du suaire actuel avec celui de Marguerite de Charny. Le feu l'a atteint seulement sur le bord des plis, et ce sont les réparations de ses brûlures qui forment l'encadrement bizarre du corps du Christ. L'histoire du Saint-Suaire paraît donc assez solidement établie depuis la fin du XIVe siècle, malgré ses pérégrinations avec Marguerite de Charny, qui a vendu simplement une chose qui ne lui appartenait pas. Mais d'où venait ce linceul? Qui l'avait recueilli après la résurrection du Christ? Qui l'avait conservé? Qui l'avait vu? Qui l'a apporté? Qui l'a donné, vendu ou livré par force à Geoffroy de Charny? Autant de questions insolubles. On nous dit que c'est vraisemblablement le même suaire que celui de Constantinople qui disparut lors du sac de la ville par les croisés. Mais quelle est la preuve de cette affirmation? On ne trouve rien, absolument rien. Et quand ce serait le même, qui nous garantirait l'authenticité du Saint-Suaire de Constantinople? Les reliques de la Passion ont éveillé, à partir de Sainte-Hélène, la pieuse curiosité des fidèles, et ceux qui ne pouvaient pas en obtenir se contentaient d'une copie qui, avec le temps et la vénération publique, finissait probablement par acquérir les droits à l'authenticité. Ne savons-nous pas, par les textes qu'a produits M. de Mélie avec d'autres archéologues, que les suaires de Besançon, de Silos en Espagne et de Xoberas à Lisbonne n'étaient que de vulgaires copies de celui de Turin? M. Mélie n'a-t-il pas compté, éparses dans le monde, présentes ou mentionnées autrefois, plus de 600 épines de la Sainte Couronne et un certain nombre de clous de la croix? Il faut donc se garder d'affirmer en pareille matière. On dit que les apôtres ont sans doute recueilli les linges du tombeau après la résurrection. Mais il n'en est pas question dans les évangiles, et il faut se rappeler que les apôtres n'étaient pas encore animés d'une foi bien ardente, qu'ils restaient juifs, qu'ils suivaient toutes les prescriptions de leur religion, qu'ils en avaient l'esprit, et que jamais les juifs n'ont eu le goût des reliques. Le mort était pour eux une chose impure, et ceux qui le lavaient et l'ensevelissaient étaient eux-mêmes, comme les nécrophores de l'Égypte, un objet de répugnance. Moïse cacha sa mort, précisément pour que son peuple ne fût pas tenté d'idolâtrie à l'égard de son corps. Nulle part on ne voit dans la Bible les Israélites conserver quelque chose d'un cadavre ou même d'objet lui ayant appartenu. Les apôtres n'ont même pas songé à conserver le bois de la croix ni à racheter la tunique du Seigneur. Les actes des apôtres et des épîtres sont muets sur tous les souvenirs de la Passion et c'est assez pour nous montrer que l'idée des reliques n'existait pas encore. D'ailleurs, le Christ était ressuscité. À quoi bon s'occuper de ceux qui étaient à la mort puisqu'il vivait? L'Alléluia supprimait les regrets et les souvenirs matériels de la vie et de la mort. Comment donc s'imaginer que les linges qui servirent à l'ensevelissement du Christ ont pu être pris et conservés par un inconnu, un indifférent, qu'ils ont été conservés de père en fils, malgré les guerres, les incendies, la ruine de Jérusalem, et qu'ils ont pu apparaître 13 siècles plus tard, en France, sans qu'on ait jamais su un mot de leur histoire pendant 13 siècles? Si l'on nous apportait aujourd'hui l'épée de Pharamon, de quel sourire ne l'accueillerions-nous pas? Et quelle preuve ne nous faudrait-il pas pour y croire? Il faut donc renoncer à l'histoire pour affirmer l'authenticité du Saint-Suaire de Turin, car ce qu'elle en dit prouverait le contraire. Il nous reste à examiner la thèse de M. Paul Vignon, thèse très séduisante à première vue et qui peut se résumer ainsi. Le corps des suppliciés dégage pendant l'agonie une sueur spéciale, très chargée d'urée, et de cette urée se dégagent des vapeurs ammoniacales qui oxydent l'aloès mélangé d'huile et le noircissent, d'autant plus qu'elles sont plus proches, d'autant moins qu'elles sont plus éloignées. Si les aromates avaient été versés sur le corps du Christ, nous n'aurions rien, parce que l'huile aurait arrêté ses vapeurs ammoniacales et que la toile du linceul, sans préparation, n'aurait rien donné. Il est donc nécessaire que les 100 livres d'aromates, myrrhe et aloès, Saint Jean, apportés par Nicodème, aient été versés sur le linceul avant qu'il ait reçu le corps du Christ. Et sur ce point, l'évangile de Saint Jean est muet. Il dit simplement que le corps du Christ fut enseveli avec les aromates selon la coutume des Juifs. Accepterunt ergo corpus Jesu et ligaverunt illud cum aromatis sicut mos est iudeis sepelire. Ce texte est très important. Il montre d'abord que le Christ a été enseveli selon la coutume des Juifs qui suppose le lavage du corps. Le mot « ligaverunt » nous fait voir que si le linceul n'a pas été entouré de bandelettes, il a été au moins enroulé autour du corps, tandis que les expériences de M. Vignon supposent un linceul délicatement étendu et tiré sur un corps, sans le moindre froissement ni enroulement. Si tout a eu lieu, comme le veulent les expériences de M. Vignon, le résultat s'explique. Les parties du corps qui touchaient le linceul sont venues en noir, par l'oxydation de l'aloès, et les parties les plus éloignées de la toile sont restées en demi-teinte ou en blanc, ce qui constitue un cliché négatif. Voilà qui a frappé tous les esprits. Mais pour que cette théorie soit applicable au linceul du Christ, il faut que le corps n'ait pas été lavé, parce qu'alors il ne serait pas resté de sang caillé, que les aromates aient été versés sur le linceul et non sur le corps, ce qui est contraire aux usages juifs, et qu'enfin, le linceul ait été tendu sans un pli sur la face antérieure du corps et n'ait pas touché les côtés, ni les côtés des bras, ni les côtés du corps, ni les côtés des jambes, ni les côtés de la tête, ni le haut du crâne. Le voilà le miracle, c'est que l'image se soit produite exactement comme un peintre aurait pu le faire, des seules faces antérieures et postérieures. Le contact des côtés n'a rien produit et les deux têtes, figure et crâne, sont nettement détachées, ce qui, à la rigueur, pourrait s'expliquer par un pli du linceul qui ne serrait pas le haut de la tête de très près. Mais les côtés de la tête, des bras, des jambes, aucune trace. Et pourtant, le linceul n'était pas suspendu au-dessus du corps, il le touchait, il l'entourait, au moins dans le tombeau, et il ne pouvait pas n'y faire pas de pli. Les vapeurs ammoniacales. Ici, un nouveau doute surgit dans notre pensée. Le Christ était mort à 3 heures de l'après-midi. Joseph d'Arimathie était allé demander son corps à Pilate. Il l'avait obtenu. Il avait montré son autorisation aux gardes du calvaire et il avait procédé à la descente de la croix, soit qu'on ait arraché les clous sur la croix et descendu le corps, soit qu'on ait d'abord descendu la croix, ce qui est plus probable. En route, Joseph d'Arimathie a acheté un linceul, Sindonem, et Nicodème a apporté 100 livres d'aromates. Tout cela a pris du temps et le lendemain était jour de sabbat où il était défendu de se livrer à un travail quelconque. L'ensevelissement a dû par conséquent avoir lieu la nuit, à la hâte, avant le lever du jour, ce qui le prouve, c'est le texte de Saint-Luc, chapitre 23. Verset 53. Et depositum involvit sindone et posuiteum in monumento exiso. Verset 54. Et dies erat paraseves et sabbatum illuses sebat. Le jour commençait à poindre. Il fallait se hâter pour n'être pas vu se livrant à un ensevelissement le jour du sabbat. Or le jour vient, à Pâques, vers 6 heures du matin, c'est l'équinoxe. On avait donc passé la nuit à obtenir la descente de croix et à faire l'ensevelissement. Et il y avait plus de 12 heures que le Christ était mort quand il fut enseveli et porté dans le tombeau. On peut donc se demander si le corps absolument froid a continué à donner des vapeurs ammoniacales qui sont le produit de la transpiration spéciale des suppliciés agonisants. Cela est possible, nous l'ignorons. Mais si cela est possible, il sera facile de reconstituer l'expérience avec un cadavre des hôpitaux, le cadavre d'un homme mort d'une maladie pouvant donner cette transpiration spéciale. Où nous sommes d'accord avec M. Vignon, c'est lorsqu'il distingue entre le suaire et le linceul. Nous disons à tort le Saint-Suaire. C'est le Saint-Linceul qu'il faudrait dire, et les Italiens disent avec raison la Santa Sidone. M. Vignon en a fait le mot saint don. Contentons-nous du mot linceul. L'évangile de saint Jean, que M. Vignon a choisi de préférence parce qu'il est le seul à parler de l'ensevelissement avec des aromates, fait très nettement la distinction entre le linceul et le suaire, lorsque Simon-Pierre a couru avec l'apôtre Jean au tombeau et le voit vide. Et vidit, linte amina posita, les linges mis de côté, 27, et sudarium, quod fuerat super caput eius, non cum linte amindibus positum, sed separatim involutum in unum locum. Et il vit aussi le suaire qui avait été sur sa tête et qui n'était pas posé avec des linges, mais roulé à part dans un autre endroit. Le mot latin sudarium nous montre assez qu'il s'agit d'un linge destiné à éponger la transpiration, mouchoir ou serviette, plutôt serviette que mouchoir, car on ne roule pas un mouchoir, mais un linge assez volumineux pour cela. À quoi avait servi ce linge que M. Vignon semble oublier dans ses expériences ? Il avait très probablement été employé à envelopper la tête du Christ comme la partie la plus noble du corps, celle qu'il fallait le plus préserver, comme aussi pour soutenir le menton. Admettons qu'il n'ait été que posé sur la figure du Christ. Le problème reste le même. Comment les vapeurs ammoniacales ont-elles traversé ce linge pour aller impressionner le linceul qui était par-dessus le suaire ? On ne saurait supposer que le suaire avait été posé sur le linceul, il aurait été complètement inutile. À cela, M. Vignon répond que linte amina, ce doit être les bandelettes, et que par sudarium, il faut entendre cette fois le linceul tout entier, et que caput signifie tout le corps en cette circonstance. On avouera que c'est là un chef-d'œuvre de traduction libre. Mais voici l'expérience de M. Vignon. Il a fait couler de l'eau ammoniacale sur une main de plâtre recouverte d'un gant de peau de Suède et, ayant enveloppé le gant d'un linge enduit d'une mixture d'huile et d'aloès, il a constaté que les vapeurs ammoniacales avaient traversé le gant et avaient assez impressionné l'aloès pour montrer en négatif sur le linge le dessin de la main. Voilà qui est probant, et cependant ces vapeurs, si elles existaient sur le corps du Christ plus de 12 heures après sa mort, auraient dû agir moins facilement à travers le suaire qu'au contact direct du corps avec le linceul. La figure devrait être plus estompée, plus floue, et c'est le contraire que nous voyons. On distingue tout dans la tête, même la prunelle des yeux. Les yeux transpirent-ils donc ? M. Vignon voit un œil fermé et l'autre ouvert. Nous voyons les deux yeux ouverts, ce qui semble plus rationnel, mais nous voulons concéder qu'il n'y en ait qu'un d'ouvert, cela suffit pour le point d'interrogation. M. Vignon distingue des gouttes de sang qui ont fait des taches noires. Mais le sang caillé dégage donc aussi des vapeurs ammoniacales, et les cheveux aussi, et la barbe. C'est à la science de répondre, car nous ne pouvons qu'interroger. Enfin, il paraît bien difficile que Joseph et Nicodème aient répandu leurs aromates sur un linceul qui a 4,10 mètres de longueur au lieu d'en oindre le corps selon la coutume des Juifs. En veut-on la preuve ? Saint Matthieu ne fait pas mention des aromates, il se borne à dire que Joseph enveloppa le corps dans un linceul propre et neuf, in sidone munda. Saint Marc nous montre les saintes femmes achetant des aromates et revenant au tombeau le lendemain matin du sabbat, ut venientes, ungerent Jésum, pour oindre Jésus. On plaçait donc les aromates sur le corps et non sur le linceul. Cela est conforme d'ailleurs à la tradition juive. Dès lors, la théorie de M. Vignon sur le linceul cliché semble bien compromise. Une chose encore nous étonne profondément lorsque nous considérons cette image du Christ, c'est que le corps est absolument nu. Le Christ était-il nu sur la croix ? Cela est possible. S'il avait, comme le veut la tradition, un linge enroulé autour des hanches, qu'est devenu ce linge ? Joseph et Nicomède avaient assez le respect du maître pour ne pas enlever ce périsoma, et s'il l'avait laissé, il figurerait dans l'image, au moins par une tache moins sombre. S'ils l'ont enlevé, c'est qu'ils ont lavé le corps, mais rien ne prouve que le Christ n'ait pas été nu sur la croix. Enfin, comment ce mort est-il enseveli, selon la coutume du Moyen-Âge chrétien, les mains rejointes en avant pour cacher en partie la nudité, tandis que les Juifs ensevelissaient et ensevelissent encore en plaçant les bras du mort le long de son corps. Les Juifs ensevelissent leurs morts avec le talet sur la tête et sous le linceul. On sait que le talet est ce long châle blanc à longues franges symboliques qu'ils portent à la synagogue. Peut-être était-ce un talet de cette sorte que Joseph et Nicomède avaient placé sur la tête du Christ, ce qui est devenu le sudarium en latin, par analogie avec les serviettes dont on se servait pour s'éponger aux étuves romaines. Quant à la tête du Christ, telle que nous la montrent les épreuves photographiques du suaire, elle ne peut nous montrer que la majesté de la mort. C'est, hélas, une majesté fatale, inhérente au calme, à l'immobilité de la mort. Le nez est d'une longueur démesurée, comme toute la figure. Il semble arqué et plongeant, comme le veut le type sémite, mais il n'est pas charnu et pendant. La moustache est très forte et semble coquettement repliée du bout sur certaines épreuves, ce qui est inadmissible pour un supplicié et pour le Christ particulièrement. La bouche est amère, la lèvre inférieure débordante et un peu déjetée de côté, ce qui pourrait fort bien s'expliquer par le fait que le Christ expira en laissant tomber sa tête sur sa poitrine. Rien de tout cela ne peut soulever d'objection. Enfin, les plaies sont exactes. Celle du côté est placée à droite sur le linceul, puisque réfléchissant l'image comme un miroir, il a reproduit à droite ce qui était à gauche. La trace du clou est bien sur le poignet et non dans la main, comme l'ont imaginé à tort les artistes, car les mains n'auraient pas donné une résistance suffisante pour soutenir le corps, elles se seraient déchirées jusqu'aux doigts. Il y a des choses vraiment impressionnantes dans cette image, nous ne le contestons pas, nous l'affirmons, de même que nous y trouvons des invraisemblances capitales. Et c'est précisément le fait qu'aucun artiste n'aurait pu peindre un cadavre avec tant de savoir et d'ignorance à la fois, qui nous fait nous demander si nous ne nous trouvons pas en présence d'un sanctuaire truqué à l'aide d'un cadavre par d'habiles fabricants de reliques. Les Juifs eux-mêmes ont été marchands de reliques chrétiennes. M. Vignon répond à cette objection. Il nie la possibilité du trucage et cependant, il nous en fournit lui-même la possibilité par ses expériences. Il est bien évident qu'on n'a pas pu imiter les plaies du Christ sur un cadavre parce que les plaies faites à un cadavre ne saignent pas, mais qui a pu empêcher les fraudeurs de jeter du sang frais, fût-ce du sang d'animal, sur les plaies faites à ce cadavre, sur le front aussi, et de donner une vraisemblance au type de Jésus en choisissant un cadavre d'Israélite portant les cheveux longs et la barbe, ce qui était leur coutume au Moyen-Âge, comme ce l'est encore en Russie. La flagellation du dos, dont M. Vignon fait état tout particulièrement, et qui en effet est très visible, a pu être imitée tout aussi bien. Ici, M. Vignon interviendra pour nous demander comment on aura obtenu l'image sur le linceul sans la transpiration pathologique dont il nous a parlé. On l'aura obtenu par un procédé certainement moins raisonné et moins savant, par un procédé sorti d'une recette quelconque, mais analogue à celui dont s'est servi M. Vignon pour obtenir l'image d'une main en plâtre. Ce n'est pas à nous de donner la recette quand nous reconnaissons un habile trucage. Mais M. Vignon l'a peut-être découverte avec l'eau ammoniacale ou quelque chose d'approchant qu'on aura jeté sur un cadavre. M. Vignon n'a essayé que sur une main en plâtre. Pourquoi n'a-t-il pas essayé sur un cadavre, puisque toute agonie d'un malade atteint de forte fièvre serait caractérisée par l'émission d'une sueur visqueuse très riche en urée? Il n'est donc pas besoin d'aller chercher un supplicié en Chine, l'expérience peut se faire à Paris, dans les hôpitaux. M. Vignon craint que les linges du mort aient gardé sa transpiration. Mais cela est indifférent si la transpiration continue 12 heures et 30 heures après la mort. Il faudra mettre le cadavre dans un linceul 12 heures après la mort et le placer pendant 24 heures dans un cercueil pour nous donner l'équivalent du tombeau. Et alors, si l'expérience de M. Vignon est théoriquement juste, nous aurons le tour du corps reproduit, c'est-à-dire une chose indistincte, sans profil, sans commencement ni fin. Et si l'on supprime le cercueil et qu'on tende soigneusement le linceul sur le corps et qu'on obtienne un effet semblable au suaire de Turin, il sera démontré par le fait que le trucage était possible et qu'il ne l'était que dans des conditions de pose qui étaient incompatibles avec l'ensevelissement du Christ. Alors on obtiendra le suaire de Turin, une image sans côté, sans bavure, sans accident, une image purement faciale et dorsale. Encore faudra-t-il y ajouter habilement le dessin des yeux et peut-être d'autres détails dont les truqueurs auront eu facilement le moyen, comme d'autres ont aujourd'hui l'art d'imiter les choses anciennes, même les plus naïves ou les plus compliquées. Or, ce suaire de Turin est naïf, puisqu'il ne nous montre que ses images faciales et dorsales, exactement découpées, et il ne nous reste que la supposition du miracle, qui est hors de notre compétence, ou celle du trucage, dont M. Vignon nous a fourni lui-même une recette. N'est-ce pas enfin une cause de légitime suspicion que le soin jaloux avec lequel le saint suaire de Turin est soustrait à toute étude scientifique, à toute analyse et même à la vue des curieux, si ce n'est à de longs intervalles et dans des conditions de solennité qui excluent toute étude minutieuse? Nous demandons nous aussi, sans rien nier ni affirmer, un po' più di luce. Et après tout, qu'importent les traits du Christ, la coupe de sa barbe, la mesure de son corps? Il ne tenait à nous léguer que ce pourquoi il était venu, sa doctrine. Et elle vit cette doctrine de douceur, de charité, d'amour, de courage dans les épreuves et d'espoir vers l'au-delà. Elle vit, et c'est, ainsi que le disait M. Jaurès, la vieille chanson qui berce l'humanité depuis tant de siècles et sans laquelle il n'est que haine et colère. Et nous terminerons en nous demandant s'il est des portraits nécessaires à nous montrer quand l'idéal nous suffit. Louis de Meurville.